la France va-t-elle vers une guerre civile? Le premier meeting de Zemmour a laissé entrevoir ce vers quoi se dirige la France avec l'aide d'Israël. Dans la capitale européenne, la situation a dégénéré lors d'une manifestation contre les mesures anti-Covid. Quelques heures ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre dimanche à Bruxelles. On constatait des journalistes de l'AFP lors d'un rassemblement d'opposants aux mesures anti-Covid qui a réuni 8000 personnes selon la police. Pris pour cible par un groupe qui lançait des canettes, pétards et tirait des feux d'artifice dans leur direction, les policiers ont répliqué avec des canons à eux et des gaz lacrymogènes. Alors que le cortège avait achevé son itinéraire, la police a appelé à sa dislocation afin de mieux contrôler les dérapages violents. La dispersion était en cours en milieu d'après-midi. Il y a deux semaines, les forces de l'ordre avaient été surprises par l'ampleur de la mobilisation contre les restrictions sanitaires qui avaient alors rassemblé 35 000 personnes dans la capitale belge et donné lieu à des scènes d'émeutes. La police avait cette fois mobilisé des moyens plus importants. Des unités de police anti-émeutes avec boucliers et casques étaient déployées aux alentours du quartier européen qui abrite les institutions de lieu. Plusieurs routes étaient bloquées avec barrières et barbelés. Outre les canons à eux postés en ville, un hélicoptère et des drones survolaient la zone. Les manifestants dénonçaient les obligations imposées à la population depuis le début de la pandémie de Covid-19 pour limiter les contaminations, comme le passe sanitaire rendu obligatoire pour accéder à certains lieux. Ils critiquaient également la couverture médiatique de la crise. Baptisé Acte 2, marche pour la liberté, la manifestation entendait poursuivre la mobilisation du 21 novembre. Plusieurs villes d'Europe ont connu de telles mobilisations ces dernières semaines, notamment aux Pays-Bas et en Autriche. Tandis que les gouvernements ont accru les contraintes face à une nouvelle vague de contamination. Ainsi, la Belgique a annoncé vendredi la fermeture des écoles maternelles et primaires pour les congés de Noël avec une semaine d'avance pour contrer la reprise épidémique. Elle a également imposé le port du masque en classe aux enfants à partir de 6 ans. Le président russe Vladimir Poutine est à New Delhi ce lundi pour un mini-sommet exceptionnel entre l'Inde et la Russie. Il est accompagné de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères et devrait signer d'importants contrats d'armement, entre autres celui concernant les missiles controversés S-400. Un déplacement d'importance car c'est seulement la deuxième fois que le président russe réalise un déplacement officiel en dehors de son pays depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous raconte RFI. Avant de poursuivre, si la Russie et l'Inde sont des amis proches depuis des dizaines d'années, elles ont chacune des alliances qui inquiètent l'autre. Les liens entre la Russie et la Chine, mais ceci très récemment avec le Pakistan, nouvelle donne afghane, oblige, inquiète à New Delhi. La Russie, elle, voit d'un mauvais œil le pari américain de faire de son partenaire historique un pivot dans sa stratégie face à Pékin. La Russie est aussi irritée de voir l'Inde s'émanciper, diversifier son portefeuille commercial, notamment en matière d'armement. Sur ce marché, la part de la Russie est descendue en dessous des 50%. Européens et Américains sont venus la concurrencer. Ainsi, Washington a vendu à New Delhi des patrouilles maritimes et des drones. Car la Russie est depuis des décennies le premier fournisseur d'armes pour l'Inde. Près de 2/3 de ses achats d'armes étrangères de New Delhi viennent de Russie. Et cette visite devrait sceller deux importants contrats, le lancement de la production en Inde de 750 000 fusils automatiques Kalachnikov AK 203. Grâce à un transfert de technologie et surtout la vente des missiles de croisière perfectionnés S-400, malgré la menace de sanctions des États-Unis, l'Inde cherche à préserver une relation privilégiée avec la Russie et notamment dans le domaine militaire. L'Inde a de toute façon le souci de mettre ses œufs dans différents paniers au plan militaire. C'est une des raisons pour lesquelles elle achète, français, européen en général, mais l'achat de fusées S-400 russes a manifesté le désir que l'Inde avait de garder ce lien privilégié. Moscou, New Delhi, chacun aura pourtant à cœur ce lundi de préserver la relation et de ménager les équilibres. Vladimir Poutine a promis à la Chine une visite pour les Jeux olympiques, mais fait le geste de se rendre d'abord en Inde. Nul doute que Narendra Modi aura aussi des gestes d'amitié en retour. Le thème des vaccins devrait notamment être abordé alors que Moscou a signé des partenariats avec New Delhi pour la production de centaines de millions de doses de son sérum phare contre le coronavirus. Le Sputnik 5. L'Inde est importante pour Vladimir Poutine parce que ça a toujours été un pilier de la politique étrangère russe, mais ceci indépendamment des questions économiques pour les questions géopolitiques. Vladimir Poutine était absent au G20 et à la COP26, mais il est à New Delhi ce lundi 6 décembre. C'est son deuxième déplacement hors des frontières de la Russie depuis le début de la pandémie, après sa rencontre avec Joe Biden à Genève en juin. Un déplacement rare et pas simplement parce que les relations entre Moscou et New Delhi sont traditionnellement bonnes, mais ceci parce qu'elles ont bien besoin d'être réchauffées, raconte RFI un peu jaloux. En Guadeloupe, 64 personnes ont été condamnées depuis le début de la contestation. Le parquet de Pointe-à-Pitre a fait savoir que 64 personnes avaient été condamnées depuis le début de la contestation qui a viré en crise en Guadeloupe. 148 interpellations auraient par ailleurs été effectuées depuis le début des événements. Depuis le début de la mobilisation sociale et anti-mesures sanitaires qui a muté en crise en Guadeloupe, plus de 70 personnes ont été jugés et 64 ont été condamnés par des tribunaux qui tournent à plein régime selon des informations de l'AFP du 3 décembre. Macron salue la stratégie politique du ministre des Outre-mer. Tous les participants aux actions violentes et illégales sont jugés et il n'y a quasiment eu que des condamnations, a indiqué à l'AFP Patrick Desjardins. Procureur de la République de Pointe-à-Pitre qui assume le choix de la tolérance zéro. Il fallait apporter une réponse pénale immédiate face à une vraie menace insurrectionnelle, assure le parquet pointois compétent en matière criminelle et qui a comptabilisé 55 comparutions immédiates depuis le début de la crise. Celles-ci ont abouti à 50 condamnations à des peines variées allant du travail d'intérêt général jusqu'à 2 ans de prison en passant par des amendes. Cette activité-là, en termes de présentation, c'était en l'espace de 11 jours, l'équivalent de ce que l'on fait habituellement 4 mois, selon Patrick Desjardins. 67 enquêtes étaient ouvertes le 1er décembre, confiées à tous les services d'enquête du département. Cela va du pillage de magasins comme une armurerie à l'attaque de gendarmerie et des tentatives d'homicide sur des policiers. Outre les 50 personnes condamnées à Pointe-à-Pitre, 14 l'ont été à Basse-Terre, a indiqué à l'AFP Xavier Sicot, procureur de la République de Basse-Terre. Tous ceux qui ont été présentés à l'exception d'une personne que j'ai orientée vers un contrôle judiciaire ont fait l'objet de condamnations à des peines de prison ferme pour entrave, violence sur personne, dépositaire de l'autorité publique, vol, pillage, outrage ou rébellion, a-t-il précisé. Selon un décompte de l'AFP, le 3 décembre au matin, au moins 148 interpellations avaient été réalisées en Guadeloupe depuis le début des événements. De nouvelles comparutions devraient avoir lieu ces prochains jours. Le LKP, un collectif regroupant en son sein une cinquantaine d'organisations syndicales, associatives, culturelles ou encore politiques, politique de l'île avait lancé un appel à la grève générale le 15 novembre pour contester l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers. Le mouvement s'était étendu à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère. En marge de cette mobilisation, des blocages avaient été réalisés dans l'île et des violences avaient éclaté durant plusieurs nuits. La Guadeloupe a été placée sous couvre-feu, tout comme la Martinique, également touchée par des manifestations et des violences urbaines. Et le gouvernement a déployé des agents du GIGN et du RET. Des négociations avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrivé en Guadeloupe pour une visite express le 29 novembre, ont tourné court en raison du refus des syndicats de condamner les tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes. Selon l'AFP, l'exécutif s'est en outre déclaré ouvert à un débat sur une autonomie accrue de la Guadeloupe, provoquant une levée de boucliers à droite de l'échiquier politique. L'OTAN a trouvé un moyen de contourner la Convention de Montreux pour occuper la mer Noire. Depuis que la Bulgarie a annoncé sa disposition à déployer sur son territoire une composante régionale du commandement maritime de l'OTAN, l'Alliance pourrait obtenir la possibilité de contourner les restrictions de la Convention de Montreux pour envoyer librement en mer Noire des porte-avions et d'autres navires de guerre. Car formellement, ils appartiendraient tous à la Bulgarie. À l'heure actuelle, l'accès de navires étrangers à la mer Noire est réglementé par la Convention de Montreux de 1936. Elle contrôle la navigation maritime via les détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que le tonnage total des navires de guerre se trouvant en mer Noire et appartenant aux pays qui n'ont pas accès à la mer Noire. Le tonnage total des navires de guerre de pays qui ne font pas partie de la région de la mer Noire ne doit pas dépasser 30 000 tonnes et leur présence ne doit pas excéder 21 jours. Cela rend impossible la présence en mer Noire de porte-avions américains dont le déplacement avoisine 100 000 tonnes. La Bulgarie souhaite déployer sur son territoire une composante régionale du commandement maritime de l'OTAN en mer Noire, MARCOM. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de la Défense du pays, Géorgie Panayotov. Pendant son discours à la réunion des ministres de la Défense au format de Bucarest 9B9 qui s'est déroulé les 25 et 26 novembre 21 dans la capitale roumaine, le ministre a noté que son pays souhaitait entièrement le renforcement du partenariat entre l'OTAN et l'UE en matière de défense et de sécurité. Ce forum de 2 jours a permis aux ministres de la Défense de 9 États membres de l'OTAN d'Europe et de l'Est, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, d'évoquer l'agenda actuel lié aux menaces communes. Les ministres de la Défense du B9 ont appelé l'Alliance à garantir la sécurité des pays sur le flanc Est de l'OTAN. Plusieurs États membres de l'OTAN ont déjà approuvé cette initiative, mais l'Alliance devra encore prendre une décision concernant la construction d'une base navale en Bulgarie. Le déploiement sur le territoire bulgare d'une composante régionale du commandement maritime de l'OTAN en mer Noire délie automatiquement les mains de l'Alliance dans cette région. Cela lui permettrait de facto de maintenir en mer Noire un nombre illimité de navires de guerre indépendamment du pays d'appartenance. Compte tenu des relations actuelles entre la Russie et l'OTAN, la situation pourrait se refléter de manière déstabilisante pour la sécurité à proximité des frontières russes. La décision définitive concernant le passage de navires de guerre américains et otaniens revient à la Turquie, mais Ankara a déjà lancé la construction du canal d'Istanbul, considéré par les experts comme une déviation pour contourner la mer Noire. Les experts pensent que sa construction a commencé après la signature d'un pacte secret avec les États-Unis. Selon les spécialistes, la raison principale de la construction du canal d'Istanbul est l'intention de contourner la Convention de Montreux, ce qui permettra à l'OTAN d'établir le contrôle sur la mer Noire et de faire venir ses porte-avions près des côtes russes.